qu'est-ce que c'est un bon chrétien? Je me demande parfois ce que l'expression signifie dans la bouche de ceux qui l'emploient généralement en négatif. Souvent pour se le reprocher à eux-mêmes. Ils me disent, mon père, je ne suis pas un bon chrétien ou je ne suis pas une bonne chrétienne. Et alors on peut continuer la phrase comme on veut, parce que je dis beaucoup de mal des autres, parce que je critique, enfin peu importe. Ou alors ce sont justement des non-chrétiens qui nous le disent à nous, qui nous reprochent à nous de ne pas correspondre à l'idée qu'ils se font du bon chrétien, de la charité. Tu n'es pas un bon chrétien, me dit souvent ma cousine, qui s'étonne chaque fois que j'appelle un chat, un escroc ou un imbécile par son nom. Comme si être un bon chrétien, c'était un peu bisounours, de ne voir que la vie en rose, le bon côté des choses, de ne rien dire qui dérange. Qu'est-ce qu'un bon chrétien? Le pape a utilisé l'expression dans sa lettre sur la sainteté à propos des béatitudes, pas pour se demander ce que c'était, pour dire, si quelqu'un d'entre nous se pose cette question, comment fait-on pour parvenir à être un bon chrétien? Et il disait, la réponse est simple, il faut mettre en œuvre, chacun à sa manière, ce que Jésus déclare dans le sermon des béatitudes. Il existe dans l'évangile de saint Matthieu, il existe dans l'évangile de saint Luc, nous avons entendu ces béatitudes dimanche dernier, nous venons d'entendre la suite. Alors il faut commencer par resituer ce discours qui prend place dans l'évangile de Saint-Luc après toute une série de controverses avec des pharisiens où, vous connaissez l'expression, Jésus ne s'est pas fait que des amis. Et le texte est beaucoup plus explicite, il dit qu'ils étaient remplis de rage et qu'ils se demandaient ce qu'ils allaient bien pouvoir lui faire. Après une nuit de prière, Jésus appelle les 12. Il s'entoure des 12. Et avec eux, il continue sa mission, il continue son œuvre à la fois de délivrance, de guérison auprès des foules, il continue de faire le bien avec ses apôtres auprès de lui, il guérit les malades, il chasse les démons, et il prévient ses disciples que ce chemin qui est magnifique est également terriblement exigeant, et même, pour le dire en un mot, il est crucifiant. Je rencontre beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ce qui leur arrive, qui ne comprennent pas les disputes, les conflits, les divisions qui ont surgi dans leur entourage, auprès de leurs proches, dans leur couple, dans leur famille, alors qu'elles n'ont rien fait qui puisse expliquer de tels déferlements de haine. S'il n'y avait pas la compassion pour leur souffrance, la désolation devant ces gâchis, on pourrait sourire de cette naïveté à l'égard du diable, l'ennemi, l'antique ennemi, celui qui nous persuade sans cesse d'avoir raison, que c'est l'autre qui a tort, et mieux encore, qui nous invite en permanence à ne s'occuper que de nous. Ne croyez pas qu'en ne disant rien ou en ne faisant rien contre le mal, on puisse être épargné. Ne croyez pas que la distance, l'indifférence, l'abstention puissent assurer la tranquillité. C'est le contraire, c'est le message qu'on trouve dans l'Ancien Testament, en particulier dans un petit livre qui est le livre d'Esther, où le tuteur de la reine Esther lui fait passer ce message. Ne va pas t'imaginer que parce que tu es tranquille au chaud dans le palais du roi, tu pourras être sauvé. Ce sera tout le contraire. Si tu t'obstines à te taire quand les choses en sont là, toi et la maison de ton père, vous disparaîtrez. La justice viendra d'un autre lieu, dit le texte. Il ne dit pas directement de Dieu, la justice viendra d'un autre lieu, et le texte ajoute, qui sait, c'est peut-être en prévision d'une circonstance comme celle-ci que tu en es arrivé là. Le bon chrétien ne peut pas être celui qui ne dit rien. Dans la dernière des controverses qui a suscité la rage des pharisiens, il y avait dans la synagogue ce jour du sabbat un homme avec la main paralysée.
Et tous ceux qui étaient là étaient en train, dit le texte, d'épier. Ils surveillaient Jésus pour voir s'il allait faire une guérison le jour du sabbat. Et Jésus leur demande, est-il permis, oui ou non, de faire cette guérison, de faire du bien plutôt que du mal, de sauver une vie plutôt que de tuer? Et eux se taisaient. Pas un pour répondre. C'est pas moi de prendre ce risque, c'est au chef, c'est aux autres, aux plus anciens. Et c'est l'unique mention d'une colère de Jésus dans les évangiles. Jésus promena sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur. Il y a un homme qui est atteint, qui a une main desséchée, qui souffre d'un handicap. Il y a Jésus qui peut le guérir. Jésus leur demande si, dans ces cas-là, la loi s'applique sans restriction. Ils savent que non. Et ils ne disent rien. C'est le péché originel. Adam avait reçu le commandement de Dieu. Sa femme est tentée, Ève est tentée, manipulée par le diable. Adam garde le silence. À aucun moment il n'intervient. À aucun moment la femme ne se retourne vers lui pour vérifier. Et l'histoire ne cesse de se répéter, à commencer par Caïn. L'offrande de Caïn n'est pas agréée par Dieu. Il ne demande même pas pourquoi. Le texte dit, il est trop irrité, trop abattu. Il est persuadé que Dieu ne l'aime pas. Toutes ces interprétations que nous ne cessons de faire, les uns à l'égard des autres, même à l'égard de Dieu, de penser, non, Dieu ne m'aime pas. Dans l'évangile de Saint Matthieu, il y a la parabole du banquet des noces. À la fin, le roi entre dans la salle du banquet et il voit un homme qui ne porte pas la tenue de noces. Mon ami, comment es-tu entré ici? Comment es-tu entré ici sans avoir la tenue de noces?
L'autre garda le silence. Il resta muet.
Et le roi dit, jetez-le dehors, dans les ténèbres, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Est-ce qu'il a été condamné, jeté dehors, parce qu'il ne portait pas la bonne tenue?
Ou parce qu'il n'a rien répondu?
Mais, on va dire, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas, parfois même pas quoi penser, pas quoi faire. Mais alors, il faut le dire. Quand Jésus demande à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre répond, tu sais tout Seigneur. Tu sais que je suis pécheur. Le Seigneur nous parle sans cesse, pas uniquement par sa parole, chaque jour en permanence, dans toutes les situations que nous vivons. Il attend un minimum de réponse. En revanche, et c'est l'évangile de ce jour, en revanche, dit Jésus, à ceux qui vous veulent du mal, ne répondez pas, en tout cas pas sur le même ton. À vos ennemis, ceux qui vous veulent du mal, c'est la définition des ennemis. On dit, oh, il n'y en a pas. Il y a une grand-mère qui est venue me voir parce qu'elle était brouillée avec ses belles-filles. Elle avait révélé à ses petits-enfants que leur oncle s'était suicidé. Et ses belles-filles, de toute façon, avaient estimé qu'ils étaient trop petits pour savoir. Mais la grand-mère se défendait en disant, mais ils m'ont posé la question. C'est exactement l'occasion que le diable attend. Ce n'était pas la grand-mère de le dire. Mais c'est une erreur de penser qu'ils étaient trop petits. Qu'on pouvait prendre le risque d'un mensonge. Vous savez, comment on appelle ça un mensonge? Ça s'appelle une crypte. Quand effectivement, on transmet un mensonge qui entraîne d'autres mensonges. C'est pour ça qu'il est important, quelle que soit la douleur parfois de certaines révélations, de pouvoir éviter, sortir du mensonge. Pourquoi est-ce que je prends cet exemple? Parce que l'Église, aujourd'hui, souvent, est dans la situation d'une grand-mère. Pleine d'expérience et de sagesse, avec un peu moins de tonus, de créativité, d'innovation, mais surtout en porte-à-faux à l'égard des nouvelles générations qui ne sont pas ses enfants. Souvent sans père, sans avenir, ni loi. Et la mission principale de l'Église, c'est la tendresse de Dieu. Que fait-on quand un membre de la famille se suicide? On fait dire une messe pour lui tous les mois, au moins la première année, puis tous les ans, aussi longtemps que dure la douleur des vivants, aussi longtemps que durent certainement les regrets de la personne défunte. Mais il n'en va pas seulement du suicide, de toute transgression grave des commandements de Dieu, de tous les abus. Priez pour ceux qui font le mal. Priez, ne jugez pas, ne condamnez pas, priez. Alors on va dire, est-il possible de ne pas avoir d'ennemis? C'est comme la petite brebis qui goûte l'herbe tendre par une belle journée ensoleillée comme celle-ci. Trop bien! Je n'ai pas d'ennemis. Jusqu'à ce que le troupeau reprenne sa route, que ses voisines commencent à la bousculer, qu'il y ait la fatigue qui s'accumule de la fin du jour, et puis les chiens du berger, et on peut énumérer tout ça. Je note simplement au passage, les chiens du berger, les prêtres, ce n'est pas leur rôle. Est-ce que nous avons, nous chrétiens, plus d'ennemis que d'autres? Oui, si l'on compte les persécutions de l'intérieur, les chrétiens qui défigurent l'Église, que nous n'avons pas à juger, mais que nous ne pouvons plus laisser faire. Nous devons distinguer en régime chrétien trois types de paroles qui correspondent à notre baptême, notre consécration baptismale, notre union au Christ, prêtre, prophète et roi. C'est la parole du baptême, prêtre, prophète et roi. La parole du prêtre, pas uniquement la mienne, la parole effectivement du sacerdoce commun, des fidèles. C'est une parole de louange, c'est notre parole ce matin, l'action de grâce. Et il faut commencer par là, chaque journée commencer par là. La parole du prophète, c'est une parole décapante, vigoureuse, d'appel à la conversion, à commencer par soi. Et la parole du roi, c'est une parole de justice. C'est ce que dit le psaume. Seigneur, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. Et il faut finir par là, parce que c'est comme ça que ça finira. La parole de justice est la mesure qui servira pour nous. Mais il faut surtout garder unis les trois. La prière, le gant de crin et la juste mesure. Prêtre, prophète et roi.